I see trees of green.
Please evacuate this building. Please evacuate this building.
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
Ça m'écoute là-bas ou pas?
Eh oh!
Voix en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Sensibiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent,
s'épandent et s'accroissent,
se développent, augmentent,
se diffusent et se propagent sur le web,
sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix.
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame.
Bonjour Bernard.
Eh bien, bonjour Annette.
Donc, voix en expansion, deuxième émission.
Deuxième émission, et cette fois-ci, on donne la voix au renard et on va essayer de montrer que ce renard, si aimé et si haï, eh bien, il va falloir lui trouver une raison, et surtout la bonne raison.
Donc la chance qu'on a eue, c'était à l'occasion de la fête de la nature qui a eu lieu au mois de mai à la chapelle en Vercors, de pouvoir rencontrer plein de spécialistes et de personnes qui défendent le renard.
Bien sûr. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que on fait souvent des clivages, les écolos, les chasseurs, les ceci, les cela. Là on parle de la vie tout simplement et on parle aussi justement de cette vie qui nous concerne, c'est-à-dire la prédation que peut avoir des mulots sur les cultures et l'intérêt justement qu'un animal comme le renard qui lui-même est prédateur de ces mulots apporte à la culture. Donc il n'y a pas un clivage pour ou contre la chasse. Il y a carrément une idée que cet animal, qui était l'emblème de la fête de la nature, est un partenaire pour l'homme, c'est-à-dire un partenaire qui va, alors évidemment, il va manger quelques poules, mais ça c'est rien. Les poules, il suffit de, comme dit Dominique Nodin, de bien protéger son poulailler, rentrer ses poules et rentrer ses filles quand le renard traîne. Mais je crois que là, c'est vraiment clair. Et de plus, ce statut n'est pas vraiment clair au niveau de la loi. Alors, les gens se battent depuis des années, avec une administration qui, comme tout le monde connaît, est difficile parce qu'elle n'arrive pas à se placer pour des problèmes politiques et autres. On a un animal là qui est donc utile et qu'on a dit nuisible. Et ça, c'est scandaleux parce que en fait, on accuse la vie de nous protéger et c'est dramatique. Alors, on va faire évoluer un petit peu le débat puisque nous avons, comme tu l'as dit tout à l'heure, des grands spécialistes. Et notamment, je tire mon chapeau à ces gens qui ont tiré une certaine philosophie de la chose parce que c'est vrai que c'est des combats permanents, tous les jours, avec opiniâtreté. Ils sont là, et ils sont là pour défendre la cause non pas du faible, mais la cause juste.
Mmh, tout à fait. Et un des objectifs, c'est que le renard ne soit plus classé comme nuisible.
C'est ça, je pense qu'il y a des décisions à prendre, et surtout des décisions qui vont faire réfléchir, et qui ne sont pas des décisions qui sont faites avec épidermique. C'est des décisions, il va falloir revenir sur des fonctionnements archaïques, qui était notre société, c'est-à-dire prendre plaisir à tuer un animal juste pour ce plaisir qui est en fait bestialement parlant un instinct de tuer. Alors maintenant je pense qu'on a, Dominique Nodin nous l'a dit, des appareils photos. Je comprends qu'on ait envie de s'approcher de la bête, qu'on a envie de voir la bête, qu'on a envie de ramener aussi cette fierté d'avoir vu la bête. Eh bien, faisons comme Dominique Nodin, changeons nos fusils contre des beaux appareils numériques. On a vu, Annette, que grâce au téléphone portable, on peut avoir aussi des très beaux appareils photo.
Tout à fait.
Hein, sur lequel on peut adapter quoi? Une petite longue vue. Et d'un coup, on a un appareil photo qui n'est plus voué à des millions d'euros. D'ailleurs, je mettrai le lien de Tuer du Vercors, où les gens font des photos extraordinaires, locales. Alors, ce sont des gens qui sont en voiture, ils s'arrêtent, ils voient un nuage et qui partagent ça. Je trouve ça fantastique de se dire, voilà, la vie, elle est là, le renard, il est là, il est devant chez nous. Alors, on le voit juste dans les phares de nos voitures. Ceux qui ne sont pas, j'allais dire, spécialistes ou qui ne prennent pas trop le temps, on le voit dans les phares de nos voitures. Mais c'est quand même un animal fantastique.
Et il fait partie, finalement, de ce grand ensemble.
Voilà, un grand ensemble patrimonial qui, petit à petit, va disparaître. Tu sais, à Canet, on a failli faire disparaître la loutre. Heureusement que des gens se sont battus. On a failli faire disparaître des rapaces. Heureusement que des gens se sont battus. Donc voilà, cette émission est consacrée à ce combat et aussi à ce qu'on prenne connaissance du pourquoi, du comment. Et bien sûr, c'est des voies en expansion. Alors n'hésitez pas à faire tourner l'émission, parce que ce renard, il a le droit à la voix.
Petite pause musicale avec HK, avant d'entendre tous ces spécialistes qui défendent ce beau goupil.
Ah oui, HK et cet univers de papier.
Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous avons vaincu nos frères, nous avons pillé leurs terres, nous nous sommes déployés. Abattus des millions d'arbres, sans remords ni palabres, des forêts entières de papier. Pour l'Empire nous travaillons, nous nous avilissons pour quelques bouts de pain. Et pour lui nous croisons le fer, comme nos parents naguère, comme nos enfants demain. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous nous sommes trouvés un dieu d'or noir et de feu, de bronze et de papier. Nous lui avons dédié des temples, sacrifié pour l'exemple ceux qui n'avaient pas de papier. Nous avons, qu'en vint l'hiver, écrit sur des billets verts que Dieu protège l'Empire. Jusqu'aux épines des roses, donner un prix à chaque chose, même à l'air que l'on respire. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous avons conquis tout ce que nous avons bâti sur les ruines de nos pères. Ce royaume si fragile, géant aux pieds d'argile, redeviendra poussière. Soldats, un jour soudain, notre papier ne vaut plus rien, c'est tout un empire qui éclate. Nos montagnes de billets, nos tours, nos villes, nos palais,
vulgaire château de cartes. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Donc bienvenue sur la fête de la nature où le renard donc était le lieu central, j'allais dire l'emblème de cette fête qui portait le, d'ailleurs on a un gros renard à l'entrée, c'est magnifique. Mais on voit que cette bête qui est magnifique, qui est représentée par des très 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 beaux films, hein, qu'on a vu et des très belles photos.
Films, photos, tout.
Fait partie de notre patrimoine, en tout cas peut-être pas le nôtre, mais le patrimoine naturel en général. Et c'est fantastique. Et par contre, c'est vrai que des gens s'acharnent à le détruire. Pourquoi ? Il y a une raison, certainement.
Alors, pourquoi ?
Alors,
on pourrait leur demander à eux, finalement.
Oui, mais en fait, vous qui êtes l'ASPAS...
En tout cas, ouais, les raisons qui sont avancées, c'est la lutte contre certaines maladies qui pourraient véhiculer.
Ah bah alors, il faudrait déjà lutter contre la grippe.
C'est ça, c'est d'accord. Pas une mince... Ouais, non, mais alors que oui, on sait très bien que ça ne sert pas à grand-chose de le...
Alors, j'ai vu dans un des films, donc, que quelqu'un disait c'est un très beau gibier parce qu'il est intelligent. Donc là, il n'y a pas un pourquoi, là. C'est juste parce que...
Oui.
Ouais.
Bon. Il y en a beaucoup qui le tuent pour le plaisir, tout simplement.
Ah, le pourquoi, c'est le plaisir.
Oui, avant tout.
Ok.
Après, oui, il faut savoir que...
Hop, merci Annette.
Donc il est classé en tant qu'espèce nuisible, donc ce qui fait que les chasseurs peuvent le chasser, le piéger toute l'année sans aucun quota. Donc voilà, il est accusé aussi de manger le gibier des chasseurs, c'est pour ça qu'il ne supporte pas la prédation du renard. Et parce qu'il mange notamment tout ce qui est faisan, perdrix, donc du gibier d'élevage qui n'est pas du tout adapté à la vie sauvage et qui n'a plus aucun instinct de survie et qui donc est qui sont des proies très très faciles pour le renard.
C'est un nuisible donc. Tout est dans le statut. Alors nous avons l'ASPAS. Tu peux me répéter l'acronyme, j'ai pas eu le... Merci Annette, mais je pense qu'on va essayer de baisser un petit peu la baffe et tu seras tranquille avec tes boutons. L'ASPAS, oui. C'est...
Alors l'ASPAS, c'est l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages.
D'accord, donc c'est pas que le renard, il y a quand même... Vous c'est... aussi, vous avez comme totem le renard,
ouais.
Hein, j'ai vu sur les autocollants.
Oui, c'est
parce qu'on le retrouve partout, parce que c'est celui que vous essayez de protéger. Alors, je pense un combat aussi juridique, on va parler tout à l'heure. Nous avons... nos amis de la Ligue Protection pour les Oiseaux.
Voilà, la Ligue Protection pour les Oiseaux et pour la biodiversité.
D'accord, le pour la biodiversité.
On va jouer ça maintenant.
D'accord. Donc le renard, lui, est un prédateur d'oiseaux, n'est-ce pas ? Normal.
Oui, ça peut arriver, c'est quand même assez marginal. Le renard mange essentiellement des micro-mammifères. Voilà, et des oiseaux, il mange aussi quelques poules quand elles ne sont pas rentrées le soir... Mais c'est complètement marginal, donc c'est pas du tout. On peut pas dire que c'est un prédateur.
C'est pas un prédateur d'oiseaux, non. Par exemple, une alouette qui a mal fait son petit détour. Je sais pas, il y a une histoire avec l'alouette qui fait semblant d'être blessée un peu.
Une alouette qui est malade, il peut peut-être l'attraper, mais une alouette en bonne santé, il va pas s'envoler. Le renard va pas s'envoler pour l'attraper.
Non, ça marche pas. Et puis nous avons. Je passe le micro,
Oui, alors l'Union française des centres de sauvegarde.
Mais tu
de
es.
La faune sauvage.
Excusez-moi, donnez vos prénoms.
Moi, je suis Michel.
D'accord, l'Union française.
Des centres de sauvegarde de la faune sauvage. C'est-à-dire que c'est une fédération qui regroupe les centres qui réhabilitent les animaux sauvages blessés ou en détresse.
C'est-à-dire que
donc,
vous.
Donc, ils sont dispatchés un peu partout en France.
D'accord.
Et donc, on a des agréments avec un certificat de capacité. C'est une personne qui est compétente en la matière pour réhabiliter les animaux sauvages. Après un agrément d'ouverture, qui est dispensé par la préfecture, et après les titres de transport préfectoral et ministériel qui nous permettent de transporter.
Ça fait beaucoup de papiers, on sent que.
Ça fait beaucoup de papiers,
on sent que derrière il y a quelque chose. Hein, c'est...
Ça nous permet de, ben, de faire les choses dans toute la légalité.
Oui, pourquoi il faut autant de papiers pour... Ça semble évident quand on trouve un héron blessé, l'emmener chez le vétérinaire et de faire le nécessaire. Je ne sais pas, pour nous qui sommes. C'est bizarre,
Béotien.
Ça.
Alors, la problématique, elle est là. C'est la faune sauvage, elle est res nullius en droit français, c'est-à-dire qu'elle n'appartient à personne. Par contre, la loi de 1976, du 18 juillet 1976, ne permet pas à personne de transporter ni de détenir un animal sauvage.
Ça, c'est, vivant, c'est, parce qu'il y en a d'autres qui le transportent mort.
Oui, oui. Non, non, mais ça, attendez. Ça, c'est pour toute espèce. Pour toute espèce.
D'accord.
Par contre, après... Lorsqu'on trouve un animal sauvage blessé ou en détresse, on peut l'amener. Il y a une permissivité de la loi qui permet d'amener les animaux dans les délais les plus brefs et le trajet le plus court vers le centre le plus proche.
D'accord.
Voilà.
Alors.
Donc le centre, il récupère.
Oui.
Il fait un diagnostic.
L'hôpital des...
C'est une sorte d'hôpital.
Voilà.
On voit avec un vétérinaire... Mmh. Qui, on juge là si l'animal peut repartir dans des bonnes conditions dans la nature pour reprendre sa place. Le vétérinaire fait son truc, opération ou autre. Le responsable du centre, lui, fait de la réhabilitation à partir de l'éthologie, de la phénologie des espèces. Mmh. Et on remet l'animal dans le circuit naturel.
On ne fait pas n'importe quoi. On ne s'accroche pas à la chouette et puis après on dit « Oh, elle serait quand même bien, elle va rester dans le salon. »
Voilà.
Ouais, d'accord, j'ai compris. Par contre, donc, vous qui protégez les animaux, j'allais dire, un petit peu, qu'on n'aime pas toujours, c'est nuisible, on trouve un renard blessé, par exemple. Faisons le parcours à l'envers. Imaginons que ce soit quelqu'un qui aime bien la LPO, qui trouve un renard blessé, qui... Si c'est un nuisible, il faut le tuer tout de suite, non? Au niveau de la loi, parce qu'il parlait de la loi. Comment ça se passe? On essaye d'éviter la question.
Vous pourriez peut-être mieux répondre que moi.
La loi, elle dit une chose. Moi, je suis capacitaire pour soigner des renards. Mmh. Vous voyez ?
Ouais.
Donc, lorsqu'on trouve un renard blessé, je peux le récupérer, le soigner.
D'accord.
Par contre, étant donné, s'il était gibier, mmh. c'est-à-dire on peut le relâcher, s'il est nuisible, on n'a pas le droit de le relâcher. Ah, c'est interdit.
C'est interdit.
Voilà. Donc, je suis monté au ministère. J'ai discuté avec et on m'a posé une question. On m'a dit, est-ce que vous récupérez les renards? Oui, je suis capacitaire pour soigner les renards. Est-ce que vous les relâchez? Non, c'est interdit. Mais qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, ils s'échappent.
Ah oui.
Le renard est fourbe et rusé.
Mmh. Ah, la porte était ouverte. Il a passé la patte, il s'est échappé. Pareil pour les martres et les fouines et tout le reste.
Alors, il faut savoir que lorsqu'on est dans certaines commissions préfectorales, on peut effectivement discuter auprès du préfet pour essayer d'avoir des amendements à la loi. Il faut savoir que la notion de nuisibilité, elle est
ça nous intéresse, oui.
du fait d'une liste qui est ministérielle où chaque département peut piocher quelques espèces. À partir du moment où il prouve la nuisibilité en termes économiques et écologiques de l'espèce sur le territoire en question.
Alors attends, parce que il prouve la nuisibilité, mais il prouve aussi l'utilité.
Non, la nuisibilité simplement pour pouvoir le classer nuisible. C'est-à-dire qu'on demande aux chasseurs.
Par exemple, le renard qui est classé nuisible. Est-ce qu'on peut le mettre un jour ou l'autre parce que le département de la Drôme vu que les gens se sont mobilisés, disent il est utile. Est-ce que c'est possible, techniquement? Est-ce qu'il peut passer au tribunal de l'administration et là, on lui dit, ah bah non, mais écoutez, vous savez, le renard, alors je ne sais plus combien de kilos de grains que ça peut sauver en... Alors tu vas nous le dire, parce que on a fait un petit reportage là-dessus, c'est assez énorme. Le renard sauve les gâteaux, voilà, c'est ça que j'ai vu sous vos... Alors
bah, c'est vrai que selon les études qui diffèrent, puisque ça dépend, enfin le renard... adapte son régime alimentaire en fonction des ressources du territoire. Mais c'est vrai que son régime peut aller jusqu'à la consommation de 6000 rongeurs, voire même plus, si finalement il n'a que ça à manger sur un territoire.
Donc ça c'est prouvé scientifiquement, j'allais dire, oui. 6000 rongeurs qui eux-mêmes peuvent se reproduire, je ne vais pas aller dans les détails, exactement. Parce que alors là ça va être encore plus long au niveau des calculs.
Entre donc, consommer, éliminer...
Donc le rongeur qui lui serait nuisible par exemple pour les céréales ou le fourrage, le renard s'en délecte.
Oui.
Donc, on change son statut, on t'écoute bien, on regarde le truc, on se dit « Ah, il est utile
ouais. !»
Alors, comment on fait? Comment vous vous battez?
Justement, c'est très très difficile parce qu'aujourd'hui, l'instruction se fait exclusivement à charge. Pour classer une espèce sur la liste, enfin, classer ou non une espèce sur la liste des espèces nuisibles, c'est... En gros, c'est les gens qui veulent le classer nuisible, qui amènent un maximum de preuves. Et tout ce côté utile n'est pas pris en compte.
Alors là, il y a un silence, les avocats.
Oui. Il ne peut pas y avoir autant de preuves comme quoi il est utile. On ne peut pas amener des preuves comme quoi il est utile autant qu'il y en a de preuves qu'il est nuisible.
Mais le problème, c'est que de manière générale, on sait que le renard est utile. Et normalement, ça devrait être comme ça. On sait qu'il est utile, on sait qu'il participe à l'élimination des rongeurs, on sait qu'il est...
Alors, moi, j'ai un copain qui est corse, il me dit, mais non, on ne chasse pas le renard. Il me dit, mais non, on chasse toute l'année. Non, c'est pas vrai, mais il m'a dit, le renard, non. Alors, c'est possible dans le département de la Corse.
Oui, alors, il y a quelques départements qui ne classent pas le renard sur la liste des espèces nuisibles. Et il se trouve qu'il y a la Corse du Sud. Il y a 6 départements.
Je ne me suis pas trompé, alors.
Non, il y a 6 départements. Il y a la Corse du Sud, il y a la...
Bon, de toute façon, eux, les règles, peut-être qu'il y a aussi...
Il y a la Savoie, il y a la Paris et il y a la...
Attends, tu me dis que la Savoie, il ne chasse pas le renard.
Non, il n'est pas classé nuisible.
Il n'est pas classé nuisible.
Il est chassé. Pour revenir juste au statut, pour bien poser les choses et expliquer un peu les termes que je peux utiliser,
oui.
C'est le renard est une espèce dont la chasse est autorisée. Donc il est chassé 10 mois de l'année rien que par la chasse, par plaisir. C'est un sport, un loisir. Il est chassé 10 mois par an.
Ça se mange pas.
Non. Mais à côté de ça,
tu dis par plaisir, mais attends, je suis désolé, mais ça se mange pas.
Moi, non, plaisir. Mais c'est le plaisir.
Moi, la dernière fois, je suis allé, on m'a dit, tiens, tu manges une fondue de cerf, là, t'as vu l'écolo, je t'ai bien vu, je t'ai fait manger une fondue de cerf. Bon, ça se mange, mais le renard, ça se mange pas. C'est quel plaisir. Qu'est-ce qu'il y a je sais pas à vous qu'il faut le demander, je sais, mais tu le dis par plaisir.
Non, c'est le plaisir de traquer, le plaisir d'arriver à... Non, à tuer.
Moi, je suis toujours un peu embêté avec la chasse parce que j'aime, par exemple, la pêche. Je chope une truite, je la mange. Bon, voilà, c'est un acte de prédation comme la chasse. Mais là, ça se mange pas. Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait. Donc les gens tirent le renard. Donc,
soit parce qu'ils aiment bien.
Le renard, il saute, paf, il prend la balle, il saute en l'air, paf, il est mort, voilà.
Oui.
C'est comme ça que ça se passe.
C'est comme ça que ça se passe. Je suis pas experte de la chasse au renard.
Alors nous, peuple de France, si on dit le renard est utile, on peut faire remonter quelque chose. Votre combat, il est là.
Justement, voilà. Donc c'est ça. Le problème, c'est que normalement, le principe, c'est que le renard est à sa place dans les écosystèmes, est utile même économiquement. Sauf que voilà, au niveau de manière exceptionnelle, si des personnes prouvent qu'il y a vraiment un problème dans un département. Il peut être classé. Le problème, c'est que dans les faits...
Ah, je sais, on est avant les élections, les députés. Ok, d'accord. Vas-y, continue.
Mais le problème, c'est que dans les faits, il est classé nuisible dans 90 départements en France. Donc, il est classé nuisible sur la quasi-totalité du territoire.
Ouais, mais enfin, bon, la Savoie, tu m'as dit tout à l'heure, il chasse 10 mois par an le renard. Donc, ça change pas grand-chose, quand même.
Ça change pas mal au niveau des méthodes, parce que quand il est classé nuisible, le renard peut être... peut être tué par piégeage, donc ce qui permet l'utilisation d'engins sources de grande souffrance et toute l'année. Et il peut aussi être déterré, toute l'année aussi. Et ça, c'est un mode de chasse en fait qui consiste à aller chercher l'animal jusque dans son terrier, à envoyer un chien qui accule l'animal.
Le côté horrible, ça je vois bien, mais la finale c'est la même, qui saute avec
complètement.
Un coup. D'accord. Ok, donc, mais par contre, 10 mois par an, en Savoie, on peut y tirer dessus.
Oui. Enfin, c'est tiré de juin à février.
Il n'y a pas de plan de chasse pour le renard, par exemple.
Il y a de la chasse à court.
Il n'y a pas de plan de chasse en disant, les paysans du coin qui font de la céréale ont décidé que les renards soient les bienvenus. On va faire un plan de chasse. Cette année, on ne tire en rien. Ça n'existe pas.
Il n'y a aucun quota. Et ce qui fait qu'il y a à peu près... il y a des centaines de milliers de renards tués par an. On compte à peu près entre 700 000 et peut-être 1 million certaines années.
700 000
Tout mode de capture.
Si on les met debout, on va jusqu'à Paris.
Chasse nuisible, dans tous les départements, en France.
Bon, ça fait un silence. C'est la fête de la nature. Bonjour, bienvenue à tous. c'est pas la fête du renard. Ok. Alors, votre combat, comment vous allez faire bouger les lignes? Comment vous allez essayer, justement, peut-être au niveau législation, pédagogie, comment on arrive à faire bouger les lignes? Moi, quand on était gamin, on n'entendait même pas parler de ce que c'était qu'un écosystème. Donc, comment vous allez venir à la fête de la nature, bien sûr, mais comment vous allez essayer de se dire, il y a une abomination, là? C'est comment on dit, Annette, c'est horrible.
Ah, c'est abominable, tu peux le dire.
Ok. Alors, comment on fait bouger les lignes?
Alors, on fait beaucoup de communication, de sensibilisation à travers des dépliants qu'on distribue gratuitement. Il y en a qui sont pour à destination des enfants, il y a à destination des adultes. Par exemple aussi, la semaine dernière, l'ASPAS a organisé sur Paris, parce que l'ASPAS, c'est une association qui agit au niveau national et pas que local. Et donc, on a organisé un grand colloque sur le renard, donc pour essayer de mobiliser le grand public et surtout interpeller les médias sur cette problématique, avec donc des interventions de biologistes, d'experts de renards, de naturalistes, de photographes, de vidéastes, qui sont tous venus apporter leur pierre à l'édifice pour défendre le renard. Donc
c'était pas trop le moment, on est entre deux tours d'élection, alors c'est volontaire, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une manœuvre politique? Parce qu'il faut quand même dire que nos députés, c'est eux qui vont voter ces nouvelles lois que vous essayez de mettre en place.
Tout à fait.
Donc c'était exprès? Il y avait quelque chose?
C'était
rusé?
Oui, c'était un petit peu aussi pour interpeller aussi la nouvelle équipe qui va être mise en place là, notamment avec Nicolas Hulot. Donc on va voir comment ça se passe.
Je pense que ça sera pas mal. On va voir avec un hélicoptère. Vas-y, alors. Et donc là, vous avez fait ce grand colloque. Vous avez des engagements de politique.
On a par exemple la députée du Val-de-Marne, Laurence Abeille, donc qui est députée Europe Écologie Les Verts, qui nous soutient et qui aussi porte à l'Assemblée. Les revendications des associations et notamment pour la protection du renard.
Très bien. Alors, est-ce que, par exemple, ce député, en accord avec ses concitoyens, peut dire, dans le Val-de-Marne, on peut arrêter cette chasse monumentalement horrible? Est-ce que c'est possible ou pas?
Ce n'est pas le député qui prend les décisions, c'est le préfet.
C'est le préfet, d'accord. Et le préfet, donc, lui, ça revient par en haut?
Par l'État.
Par l'État.
Voilà.
Il peut faire que pression et pour faire une proposition de loi?
Alors, il peut faire une proposition de loi, certes, mais à partir du moment où c'est le préfet, comme je vous ai dit, c'est... En fin de compte, il faut voir la composition de la chasse et de la faune sauvage. Parce que tout se passe à ce niveau-là. J'ai été pendant de nombreuses années dans ce genre de choses, où effectivement, vous avez les chasseurs, les agriculteurs, vous avez quelques associations de protection nature, l'administration, etc. Et on va décider, à un moment donné... où effectivement le renard, s'il sera classé nuisible ou pas. C'est là où ça se joue. Et comme je vous ai dit, il peut y avoir des modalités parce que la fouine, elle peut être classée nuisible dans un département. Sauf que là, en faisant pression justement pour dire bah, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, on la classe 250 mètres au-delà des habitations nuisibles. Enfin, autour des habitations, elle est nuisible. Dans la nature, elle n'est plus nuisible.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Et ça, c'est une négociation qui a été faite avec les associations. Du coup, ça change, comme vous dites, ça change pas grand-chose par rapport, on peut la tirer ou pas, puisqu'elle reste toujours gibier, hein, puisqu'elle est toujours gibier.
Bien sûr.
Par contre, pour la soigner, c'est pas pareil. Parce que, comme je vous ai dit, quand elle est gibier, on peut la soigner, on peut la relâcher dans la nature.
D'accord.
Et dans les communes, par exemple, une commune dans les Hautes-Alpes qui s'appelle La Grave, où pendant des années, ils n'ont pas pu récupérer une botte de foin du fait... de campagnols qui mangeaient systématiquement le foin sur pied. Du coup, ils ont demandé au préfet que l'on puisse ne pas mettre le renard classé nuisible dans leur commune pour permettre qu'ils puissent continuer à manger les compagnons.
Incroyable.
Et c'est pour ça que la nuisibilité, elle est du fait, si ça porte atteinte écologiquement ou économiquement, là, ça portait une atteinte économique, et du coup, ce sont les agriculteurs qui ont demandé pour que ça soit déclassé.
Mais elle nous a dit tout à l'heure, j'ai oublié ton prénom, pardon. Ariane, tu nous as dit tout à l'heure, mais ça mange tant, donc c'est tout de suite utile. Donc il faut que les agriculteurs soient convaincus que c'est utile. Par contre, je crois que le renard qui se trimballait au col du Lautaret et qui était très sympa, il a été flingué sous ordre du préfet. Voilà, je suis désolé de le dire. Voilà, parce qu'il a été nuisible. Ou pas. Alors,
en fin de compte, si vous voulez, c'est encore autre chose.
C'est juste à côté, hein, parce que c'est pour ça, la col Grave, le col du Lautaret. Ouais.
En fin de compte, c'est une histoire que je connais un peu,
ouais, voilà.
Si vous me le permettez. En fin de compte, ça, c'est les personnes qui vont dans certains refuges qui donnent à manger aux animaux.
D'accord.
Vous avez un jeune renard qui est un peu familier, vous lui donnez à manger. Et ce jeune renard, lui, il ne fait plus trop la différence entre l'humain, son espèce, etc. Il commence à monter sur les tables pour pouvoir voler la nourriture. Et si on veut le chasser, il commence à mordre. Or, la loi, elle est là. Je suis désolé, moi, j'essaie
d'être... Bien sûr, justement, c'est pour ça qu'il faut comprendre.
Donc, si vous faites mordre par un renard, vous avez toujours ce vieux réflexe par rapport à la rage. Du coup, vous allez voir votre médecin, évidemment. Vous dites, je me suis fait mordre par un renard. Renard, du coup, ça monte à l'ARS, Agence Régionale de Santé, qui, lui, fait monter ça au ministère. Protocole rage, boum, ça redégringole. Du coup, vous devez faire votre truc anti-rabic, suivi, etc. Enfin, tout un bazar, etc. Du coup, pour effectivement être tranquille, on essaye de tuer le bestiau. Comme ça, on envoie la tête à l'AFSA, enfin, qui est plus là, c'est l'ANSES maintenant, et qui on regarde si l'animal est atteint de la rage ou pas.
Vous comprenez ?
Voilà. Okay. Même si, effectivement, la France est indemne de rage actuellement, mais on ne veut pas prendre de risque.
Ok. Beaucoup de papiers, beaucoup d'administration pour ce pauvre renard. Voilà. Qui finalement, au niveau de notre démocratie, souffre quand même de décisions qui sont bien difficiles. Évidemment, ce n'est qu'une partie de l'iceberg.
Maître renard n'est qu'un tocard, un zonard, un minable, une baltringue, un naze, un faiblard, un brigand, une petite frappe, un petit salopard, il t'a faux black. Dans une tanière du boulevard, maître corbeau, star à gros, perché en costard, fait partie de la haute zama, il fume son cigare, il est actionnaire de la grosse tanière, madame corbeau. On est la riche héritière, maître renard, vénère en galère de genre, il a même plus un gémant dans le placard, il déprime avec son pétard et son pinard en attendant qu'il arrive le grand soir. Maître corbeau aime les euros, les restos, les vacances. À l'œil sur le yacht de son poteau, il a du goût, le salon, du standing et de la classe. Lui ne partage qu'avec ceux de sa race, maître renard. Et sur la paille n'a plus un dard, maître corbeau. Toujours tranquille, toujours peinard, maître renard. Risque de faire une connerie, se faire un sarcorpo en michoui à midi.
Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Maître corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître corbeau était tout de noir vêtu, on ne voyait que ses yeux dépassés de son plumage. Et voilà que débarque le renard. Ouais, c'est bon, enlève ta bourque, un barco. Wesh, tu croyais pouvoir passer incognito. T'es pas un corbeau, tu serais plutôt dans le genre pivoleuse. Ce fromage n'est pas le tien, c'est au peuple des renards qu'il appartient. Faudrait que tu rendes ton butin. Bah tiens, trop c'est trop, maître corbeau, furax, passe un coup de bigot. Et voilà que les chiens policiers débarquent aussitôt. Une horde de molosses dans le genre berger allemand encercle et bastonne le renard jusqu'à lui faire perdre toutes ses dents. Le corbeau est fier de lui.
Ah, je suis vraiment trop fort, c'est vrai, j'avoue, rien à dire, je suis boss.
Toutes les meufs me kiffent, normal. J'ai trop de style, trop de classe, trop de flow quand je me pointe quelque part.
C'est chaud.
Face à tant de vanité, le renard a compris que c'était l'occasion rêvée pour récupérer le fromage sacré. Votre majesté, votre jour de gloire est arrivé. Et ce jour, il faut qu'on l'immortalise.
Oui.
Une photo, oh, excellente idée. Souriez à pleines dents et dites cheese.
Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Il était une fois, hey yo.
pas si longtemps, des renards fatigués, mais pas si méchants, fatigués de voir les corbeaux prendre les décisions et courir pour pouvoir nourrir tous leurs rejetons. Quoi qu'ils fassent, y a pas tout le temps, y a pas le bonheur, y a pas le beurre et la farine, y a pas. Mais franchement, y a pas à applaudir qu'à la maigreur de leur bonheur prenait de l'ampleur de pire en pire. Leurs yeux devenaient fous et leurs crocs luisaient la bave. Ils avaient décidé de prendre un corbeau en otage, 14 jours à peu près de séquestration. Ils l'ont lâché avec des plumes en moins sur le plastron, ce qui déclencha la fureur du conseil corbuesque. Il y eut des représailles terribles et sans finesse, et ceux d'entre eux qui réussirent à s'échapper du mur sans porte vivent sous terre. Ils vivent bien cachés, mais on dit qu'un jour sortit une prophétie qui aurait dit qu'un renard sans haine et sans fusil rétablirait à lui seul l'honneur de tous les renardons de la fontaine. Quand même, hein, ça serait bien quand même, hein.
Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Ah, c'est sûr que Maître Renard, par l'odeur alléchée,
lui aurait rendu cet hommage.
Voilà. Alors vous, vous luttez, vous avez des adhérents. Combien y a d'adhérents à l'ASPAS ? À peu près
Sur le territoire national, donc on a à peu près 10 000 adhérents.
10 000 adhérents.
Voilà. Donc,
c'est quand même du poids, quoi, je veux dire.
Oui, c'est du poids, et on a d'autant plus de poids qu'on est 100% indépendant. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de ne percevoir aucune subvention publique pour garder notre liberté d'expression.
Voilà. Oh, ben on peut vous donner, puis vous dites rien. Ok. On a fait avancer des lignes depuis que vous existiez, ça fait combien de temps ?
L'ASPAS existe depuis 30 ans.
D'accord.
Donc, elle avait justement choisi l'emblème du renard il y a 30 ans. Donc c'est notre logo, parce que c'était à l'époque une petite sorte de provocation, parce que c'était vraiment, ça reste toujours, le bouc émissaire par excellence de la faune sauvage.
J'entends parler que de bouc émissaire, mais enfin c'est les loups émissaires, les renards émissaires. Ouais. Le blaireau.
Le blaireau.
Qui est toujours le compagnon du renard, souvent.
Voilà, le blaireau, il n'est pas classé nuisible. Avant, il l'était. Mais
donc ça, c'est une avancée que vous avez, participé ou...
Ça, c'était en 87, je crois qu'il a été...
D'accord. Bon, donc le blaireau, alors, il...
Le blaireau...
Parce qu'il descend dans les champs de patates, de temps en temps.
Alors, il est accusé beaucoup, à tort, de manger du maïs, et alors que ce sont en général des dégâts de sangliers. Mais vu qu'il est assez friand...
Ah, c'est pas le même volume, un blaireau.
Voilà, mais donc il va avoir le malheur d'aller prendre quelques épis sur des plantations et de laisser sa trace. D'accord. Et donc c'est à partir de ce moment-là où on va voir la trace qui est très caractéristique, ça ressemble à une patte de petit ours. Aïe. Et donc on va lui attribuer des dégâts qui ne lui sont pas dus.
Alors notre ami de la LPO.
En parlant de blaireau et de dégâts de blaireau, moi j'ai des voisins qui un paysan boulanger qui fait son pain, et un matin il a trouvé un sac de farine qui a été éventré par un blaireau. Voilà, donc ça c'est une réalité, parce qu'il connaît le blaireau, il les voit tous les jours autour de leur ferme, et ça peut arriver, évidemment.
Bien alors, sûr, on a des loirs à la maison, on a des souris à la maison, il y a des mouches, il y a beaucoup de choses.
Voilà,
il faut faire régler un petit peu tout ça, fermer les portes, enfin chacun son espace.
Voilà, donc comme ils sont jeunes et intelligents, je lui dis, mais alors c'est quoi la solution ? Ben, la solution c'est de fermer les portes, tout simplement.
Oui, c'est ça.
Il avait laissé la porte ouverte, et donc tous les dégâts qu'on appelle des gibiers, de la faune sauvage, de toute façon, elle peut se régler d'une manière ou d'une autre.
J'ai entendu quelqu'un qui parlait de l'autour des palombes. Au niveau des poules.
Ah ben oui, ça c'est sûr, ça peut
alors
arriver.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur le tour des palombes ? Parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, on voyait ces images, et je remercie la LPO, et c'était à l'époque Bougrain Dubourg qui faisait beaucoup de choses pour ça, et qui montrait ces images de chouettes et de machins placardés sur les... Et ça marque quand même dans l'esprit des la preuve des jeunes, c'est qu'on est là aujourd'hui. Et on se dit... Comment on peut changer le quotidien de chacun. Tout le monde ne va pas s'inscrire à l'ASPAS, tout le monde ne va pas devenir LPO, mais par contre, vous avez fait bouger les lignes énormément. Maintenant, les rapaces, on en voit dans le ciel, il n'y a pas de fusil qui se dresse contre eux, pas trop. Voilà.
Donc je peux parler.
Celui qui les soigne ne dit pas la même chose. Le monde angélique n'est pas bon. Tu peux parler, tu peux dire qu'il y a des rapaces qui arrivent chez toi, parce que moi, je suis angélique, je me dis, tiens, un rapace, il peut voler tranquille. Non, il y en a beaucoup qui arrivent.
Il existe quand même des rapaces qui reçoivent du plomb, malheureusement, quelles que soient les espèces, hein, que ce soit du gypaète, que ce soit de l'aigle royal, mais régulièrement. Donc là, on ne peut pas nier le fait, lorsque vous faites une radiographie, vous voyez le plomb, de toute manière.
C'est sûr qu'au niveau radiographique, on ne peut pas nier le fait, on le voit tout de suite. Donc il y a le bon et le mauvais chasseur. Voilà. Ok.
Oui, alors en parlant de personnes qui aiment tuer les animaux, je peux parler d'un cas que je connais bien, c'est le mien. Donc moi, à 16 ans, 17 ans, je chassais. Je suis issu de la campagne de la France rurale profonde et voilà. Et donc j'ai chassé, j'ai tué quelques lapins, quelques bécasses, voilà. Et puis après, si on réfléchit un peu, un jour, on rencontre des naturalistes. Et là, c'est la rencontre. Bon, il n'y a pas de rencontre complètement hasardeuse. Voilà, mais moi, j'ai rencontré des naturalistes pour une personne que personne ne connaît ici, c'est Jean-Paul Vieron, par exemple, quand j'étais gamin.
Il est par là, je l'ai vu.
Voilà, je sais, c'est pour ça que je le dis.
Merci, Jean-Paul.
Et voilà, et donc, il a fait plein de petits, Jean-Paul. Et à partir de là, je me rappelle, il avait fait une conférence sur les renards ou je ne sais pas quoi, mais moi, je lui avais dit, mais attends, mais j'avais 20 ans, hein. J'avais dit, mais les renards, c'est pas utile, quoi. Voilà, mais je ne savais pas. On est dans un monde où il y a une grosse ignorance, d'une part, et d'autre part, moi quand j'avais 20 ans, sortais de la campagne et je croyais tout savoir sur la nature. Voilà, et puis c'était de la bonne foi en fait. Et puis petit à petit, en rencontrant des gens, en réfléchissant, eh ben, on évolue parce qu'on est condamné à évoluer, à part les dinosaures qui n'ont pas évolué.
Alors la LPO jeune n'est pas là, mais vous avez une section jeune.
Oui, qui est là, qui n'a pas voulu parler au micro.
D'accord, parce qu'ils
sont jeunes. Il y a des jeunes.
Voilà, mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire la volonté que vous avez de. Je veux dire, en même temps, il y avait une exposition il y a 2-3 ans ici qui était magnifique, faite par la LPO Jeune.
C'est une rencontre naturaliste.
Ouais. Rencontre naturaliste avec une connaissance sur la chauve-souris. J'ai assisté à ça, je me suis dit, mais il y a ça à côté de chez moi, toutes ces espèces qui, ça fait de milliers d'années, qui se trimballent, que personne ne connaît, enfin en tout cas pas moi. Vous, l'ASPAS, vous faites aussi de l'éducatif? J'ai vu que vous aviez des expositions, je vous remercie, qui sont magnifiques.
Alors, on est quand même une association qui est centrée sur la sensibilisation et sur la communication. Après, on n'a pas d'animateur, mais on met à disposition notamment des écoles, des centres d'animation, des expositions gratuites pour la protection des renards, pour les amphibiens, pour le loup.
Donc une exposition qui va dans l'éducation nationale, qui est affichée dans le couloir, doit être quand même pas tentée, il faut pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire combien tu m'as dit, 20 mulots par jour multipliés par 360. Il faut que l'opération soit bonne. Donc ça, vous avez quand même un support, j'allais dire, scientifique qui est derrière.
Oui, on a quand même pas mal de naturalistes derrière nous, des scientifiques. Mmh. Notamment par exemple pour revenir à l'utilité du renard et de la prédation sur les campagnols, un scientifique lorrain a estimé qu'il faisait économiser à un agriculteur par an à peu près 3000 euros.
Alors, tout à l'heure on a dit que le renard se mangeait pas, et là tu viens de me dire qu'il vaut 3000 euros. Alors vous choisissez 3000 euros pour aller au resto et manger des bonnes choses, voilà. Ou flinguer et vous mangez rien.
Tout à fait.
Je vois déjà l'affiche. Tu vois, le resto, 3000 euros, ça fait pas mal. Alors, si vous tu vois, ça peut être sympa.
Donc, okay. C'est vraiment un allié, un auxiliaire de l'agriculture. Et en plus, il faut savoir que quand il n'y a pas de renard, donc, ils utilisent de la bromadiolone. C'est donc un anticoagulant. Donc pour piéger pour tuer les campagnols, et derrière en fait c'est toutes les prédateurs donc de ces campagnols qui sont empoisonnés, donc c'est toute la chaîne qui est empoisonnée en fait.
Alors moi j'ai un truc chez moi, j'ai des rats aux pieds, ça le fait le renard ça, oh, ça le rat aux pieds, ça le fait là le renard? Oh là là, c'est vrai? Alors il suffirait que mon voisin tire pas trop les renards et le rat aux pieds il viendrait me manger les trucs qui permettraient que je puisse manger mes choux. C'est fantastique. Bon, je vais dire aux voisins, on va faire une soupe aux choux ensemble. Ok.
Vous avez aussi d'autres prédateurs, hein. Vous avez la belette qui rentre dans les trous, etc., qui va aussi détruire des rongeurs. Donc c'est l'intégralité. Le renard est quand même le porte-parole de tous ces nuisibles, entre guillemets, détruits, quoi. C'est-à-dire la belette, la marthe, la fouine, le blaireau, etc. Là, voilà, si on avait tout ça, je pense que l'homme pourrait effectivement vivre mieux de ses produits sains.
De ses produits sains, ok. Bon, avez-vous d'autres choses à nous rajouter pour essayer de faire quelque chose? Alors, on voit qu'on est dans le positif ici, puisque c'est la fête autour du renard, et non pas, on ne fait pas la fête du renard, on ne lui fait pas sa fête. Est-ce que vous pouvez nous dire d'autres choses? Parce qu'on aimerait bien vous retrouver quand même d'autres années. On vous retrouve où déjà? Comment on fait? On va mettre tous les liens sur Internet, bien sûr, mais comment on peut devenir volontaire pour l'ASPAS?
Bénévole ou
bénévole, volontaire, donner des dons.
C'est très simple. Donc on a un site internet qui est www.aspas-nature.org où vous trouverez toutes les informations nécessaires, donc pour adhérer, pour contacter aussi les salariés qui s'occupent de faire vivre les stands. Donc c'est là qu'on a surtout besoin de bénévolat.
D'accord.
Et aussi, on est présent, représenté dans beaucoup de départements avec ce qu'on appelle des délégués, donc qui répandent la sainte parole de la
SPAS. Et j'étais surpris quand je vous ai eu au téléphone. Déjà, les voix sont très sympathiques. Je vous remercie. Mmh. C'est sur Cré.
Oui.
C'est vraiment pas loin.
Oui, oui, on est basé à Cré. Donc voilà.
Alors, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que le parc régional du Vercors fasse une sensibilité encore plus profonde près des agriculteurs pour, en fait, que ces 3000 euros peuvent servir à aller au resto, parce que ce serait sympa.
Oui, on peut imaginer, vous parliez des agriculteurs.
Je ne les ai pas vus, là, le parc régional du Vercors, là. Peut-être qu'ils ont été invités ou... Ouais. On ne les a pas vus, le CPIE, tout ça, enfin, les gens qui s'occupent aussi de la nature.
On n'avait pas peur de la mort. Pour nous le dernier combat.
Ah, moi je sais comment faire, je sais vraiment comment faire. Il faut amener la cage qui s'ouvre automatiquement sans faire exprès du monsieur qui soigne les renards. J'ai compris le truc. Ah, oh, il a ouvert la cage.
Le mode d'emploi.
Voilà. Il s'est sauvé. Le vilain renard.
Non, mais justement, ouais, c'est vrai qu'il faut. On a besoin de.
Alors j'ai un éleveur de poules qui passe à côté de moi avec une bière. Je voudrais lui demander quelque chose. Je ne cite pas, c'est DN. Monsieur DN, vous élevez des poules particulières, c'est la poule du Vercors.
Ah oui, parce que j'ai beaucoup de passion en fait. Hein.
Donc vous avez la passion du renard et la passion de la poule. Comment vous arrivez à gérer ça, puisque maître renard, comme on le sait, aime bien aller dans les poulaillers.
Par l'odeur alléchée.
Ouais, ben là la poule.
En fait, l'élevage, pour moi, c'est pas incompatible avec les prédateurs. Mm-hmm. Hein. Après, on en discutait, on en rediscutera, mais tout le temps.
Non, mais rassurez-nous, c'est possible.
Bien sûr que c'est possible.
Alors, pour le tour des palombes, il faut faire quoi, monsieur LPO?
Pour le tour des palombes, il ne viendra pas t'emmerder dans ton poulailler ici.
Hein. Ah bon, moi, j'ai un voisin qui me dit le tour des palombes, mais bla, il ne dit pas ça pour rien.
Je pense qu'il doit confondre.
Avec un épervier?
Bon, ouais, plutôt.
Bon, bah, c'est pareil. Le résultat, c'est le même.
Ouais.
Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on ne peut pas mettre un grillage en haut.
Si, on peut mettre un filet.
Ah, vous mettez un filet?
Bien sûr.
Ah, bah, filet, c'est tout cool.
C'est ultra léger, c'est pas. Voilà, on en fait
d'accord.
Plein de choses.
Pour le renard? Après,
pour le renard, ben, enterrer sa grille, fermer ses poules.
Combien de centimètres?
Ouais, tranquille, 30. Parce que de toute façon, il va s'énerver. Le renard, c'est un opportuniste. Il va chercher de la bouffe facile.
Voilà. On lui met un camembert.
Donc, il va prendre tout ce qu'il va trouver. Si ça commence à être trop difficile, il va perdre de l'énergie. Ça vaut pas le coup.
Ça vaut pas le coup.
Voilà. Donc, il a d'autres chats à fouetter, entre guillemets.
Le chat est un prédateur.
Le chat se défend.
Que la LPO n'aime pas trop.
Le renard réfléchit à 2-3 fois, à mon avis, avant d'aller attaquer un chat. Hein.
D'accord, ça lui perd de l'énergie et peut-être.
C'est vraiment, au cas où il en trouve un qui ne soit pas en forme et qui. Voilà.
D'accord. Donc, si le chat qui. Hop, 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 et donc, tu enterres ton grillage, après, tu fais quoi?
Tu peux enterrer ton grillage, tu peux électrifier ton grillage, tu peux fermer tes poules. C'est bien fermer les poules aussi. Il y a des tas de systèmes qui existent électriques pour pouvoir fermer les poules, ça marche sur du solaire.
Mais est-ce que...
On a la technique pour le faire, on a l'intelligence et
on va mettre
en pratique, c'est tout.
D'accord.
Moi, j'aime bien aller boire l'apéro chez mes potes le soir.
Ouais, je vois ça. Ouais. Et donc, tu as un détecteur quand le renard arrive qui t'appelle et qui dit « Dominique ND, tu peux aller faire une photo, le renard tourne près de ton poulailler. » Je vois le truc, ouais. Donc, l'apéro tranquille.
Oui, l'apéro tranquille.
Okay.
Moi, je sais qu'à telle heure, mes poules sont fermées.
D'accord.
Voilà.
Ok. C'est-à-dire que les poules rentrent.
Les poules rentrent.
Ah, je vais faire ça, voilà. Comme dans les boîtes de nuit, voilà. Elles rentrent.
C'est dommage, je l'avais invité, mais il n'a pas pu venir. Un gars qui fait justement ça, il était dans l'Isère. Ça s'appelle CK Dort.
Donc,
vous allez voir sur son site, hein, CK Dort, monsieur Leblanc. Et où il a un système, justement, qu'il a breveté. Et qui vend sur internet, vous le trouvez. Hein.
D'accord,
et
c'est comme un piège photo, sauf que ça ferme la porte.
Voilà. En fait, c'est une.
Ça fait à l'heure, une minute.
C'est un gros rond comme ça, en alu,
ouais.
Que vous fixez sur votre porte avec un trou.
Ouais.
Il y a un petit boîtier électrique. Vous pouvez le mettre soit avec un minuteur, hein, donc avec tous les jours de la semaine. Vous pouvez programmer un programmateur, c'est pas un minuteur, c'est un programmateur. Soit avec une cellule qui réagit à la lumière. Et donc, quand il fait bien jour, la cellule, clac, elle déclenche, la porte, elle s'ouvre. Quand il fait nuit, la cellule, clac, ça se ferme.
Salut les poules, et puis le truc, il ramasse les œufs, drrr, on dirait chicken, machin.
Non, mais c'est vrai que c'est pratique.
Mais j'imagine, c'est l'intelligence.
Bah,
là, vous pouvez dire quoi par rapport aux gens qui ont des renards un peu disons, opportunistes?
C'est trop opportuniste. Assez simple, déjà, vous avez un désir de cohabitation, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Après, oui, c'est des simples mesures de prévention, comme il disait Dominique, de bien enterrer son grillage minimum 30 cm, parce qu'il creuse quand même. Puis simplement de vouloir accepter aussi la faune sauvage, tout simplement. On est dans une ère où maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine prise de conscience, notamment par rapport au bien-être animal, à la place de la faune sauvage. Et c'est vrai que maintenant, il faut que les mentalités évoluent aussi, qu'on accepte de cohabiter, même s'il peut y avoir des petits dégâts.
C'est ça. En fait, ça paraît simple, quoi. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la compréhension. Le gros problème, c'est finalement, dans ce que j'entends, c'est la chasse-plaisir, quoi. La chasse-plaisir. Et alors, pour le renard, ça paraît évident. C'est pour tous les animaux, la chasse-plaisir.
Annette. Moi, je... Oui, pardon.
Pourquoi il y a des gens des chasses qui chassent? Pourquoi moi j'ai chassé quand j'étais
chasseur,
gamin? Voilà. Parce qu'on a du plaisir à chasser. On se sent, une certaine supériorité, l'instinct prédateur. Voilà. Et puis ça évolue avec le temps. Et ce que je voulais dire par rapport à ce qu'il faut faire, il ne faut pas négliger le fait des émotions. Si on a des émotions, un jour à tuer un renard, Il est important de montrer dans toutes les animations qu'on fait qu'on peut avoir beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir à observer, à faire de l'observation de renards. Un renard qu'on a, en partant d'ici, j'ai croisé un renard sur la route. Voilà, c'est un,
alors
un
des peu, émotions, ouais,
c'est voilà, vrai. C'est dans, ça rentre dans le cadre du spectaculaire de la nature ordinaire. Et en ouvrant les yeux, ici, voilà, on a des hirondelles qui nichent.
Ah, mais moi,
voilà, c'est formidable, d'abord, tout simplement. Et à partir du moment où on a des émotions. Par rapport à un animal, par rapport à un ou à un renard ou n'importe quoi, eh bien on va le protéger, on va l'observer.
Point alors, final. Je tiens à remercier Miltras, Dominique Naudin et puis tous, enfin, tout ce qui est là, parce que des émotions, de la beauté, de la paisible, il y en a, c'est fantastique avec les expos photos, les films, les spectacles et beaucoup de choses, juste comme ça pour avoir de l'émotion. Et donc, tu dis que cette émotion va payer parce que on va avoir un autre plaisir finalement. Que peut-être la destruction qui apporte aussi une émotion, c'est ça que j'ai bien compris ou pas?
Bah absolument, avec les émotions, d'accord. On va changer le monde. Avec ça devrait.
Un grand concert pour le renard, d'accord. Tu nous parleras peut-être aussi de ces renards blessés. On t'en ramène ou pas? Parce que la personne qui met un piège pour le renard, elle a cette émotion peut-être de dire bah voilà, je me rends utile, je détruis un prédateur, etc. Tout. Toi, on t'amène un animal. Qui était sauvage et qui en peut plus, quoi. Comment ça se passe?
Alors, il y a plusieurs cas de figure qui existent. Il y a les petits renardos qu'on trouve, malheureusement, que l'on... Enfin, c'est l'alerte enlèvement. C'est-à-dire qu'on prélève un animal alors qu'il n'est pas forcément en détresse. On croit qu'il est en détresse.
Alors, on a une émotion exacerbée. On dit le pauvre.
Est tout seul et en fin de compte, non. La mère n'est pas très loin. Elle a laissé tomber plus ou moins. Elle va venir le rechercher. On la récupère, on le ramène. Du coup, c'est un problème. Et c'est problématique parce que du coup, il va être imprégné et son relâché va être hypothétique. Ça, là, pour le coup, c'est compliqué. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose.
Je rappelle qu'on n'a pas le droit d'avoir un renard comme un chien à la maison.
On n'a pas le droit d'avoir un animal sauvage, quel qu'il soit, chez soi. C'est interdit par la loi. La deuxième des choses, ce sont les animaux blessés par route, collision véhicule. Ça peut arriver, notamment dans les périodes où, effectivement, les femelles, elles sont en train d'allaiter, etc. Elles vont chercher de la nourriture, donc elles font des allers-retours. Là, c'est l'hiver, c'est les mâles qui vont se déplacer pour essayer de trouver les femelles. Donc, il y a des déplacements. Et là, il y a les risques de collision voiture. Donc, on en récupère. Avec tout ce qui peut arriver. Troisième des choses, ce sont les piégeurs. Et là, des fois, on a des surprises. J'ai eu dans mon... Je suis un petit peu vieux, vous voyez, je suis un peu couleur blaireau maintenant. Et donc, on a des fois des surprises. J'ai eu une personne qui m'a appelé, dit voilà, je suis piégeur agréé. J'ai récupéré une femelle. Je l'ai tuée. J'ai continué à piéger. Et là, j'ai piégé toute la portée de renardeau. Mais je ne veux pas la tuer. Est-ce que vous pouvez finir l'élevage?
Ah d'accord, ok.
Et alors là, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Tu dis, mais il a tué la mère, il a les petits, et il ne veut pas aller jusqu'au bout de l'acte.
D'accord. Alors donc, tu lui as donné 6 balles.
Non, j'ai récupéré.
Ah pardon, je suis con.
J'ai récupéré les bestioles, quoi. Mais là, il y a quelque chose, il y a eu peut-être... Alors, comme disait mon
voisin, émotion.
Une émotion, à une prise de conscience, quelque chose qui s'est passé, l'œil, le renard, je ne sais pas. Du coup, on se retrouve des fois avec des
On est tous humains, quelque part, heureusement.
Voilà.
Ok. Eh bien, merci à tous. On va finir sur cette belle histoire que l'on comptera. Et voilà. Merci. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Cette chanson... C'est une chanson pour tous ceux qui pensent que le monde, sans les méchants, sans le mal, sans l'égoïsme, sans la cruauté, le monde serait mieux. Aujourd'hui, moi j'ai fait le rêve d'une humanité plus humaine, sans haine et sans méchanceté. Où seulement les gens gentils seraient accueillis. Une humanité plus pure, où les gens méchants auraient la vie dure. Parce que, je sais pas vous mais moi, les gens qui sont méchants,
ils me foutent les boules. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, rien qu'à leur gueule, ça se voit, ils sont pas nets. Et plus ça va, et moins je supporte de les voir passer devant chez moi, tu vois. Et s'ils veulent pas comprendre, j'ai des solutions. La déportation pour tous ces enculés d'intolérants. Et les chambres à gaz pour tous ces fumiers de racistes. Et on réallume les fours pour y mettre tous ces sales cons de fascistes. Et tous ceux qui pensent pas que j'ai raison, je les bute.